Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'impression qu'a la lectrice ou le lecteur de connaître un auteur est toujours une illusion. On peut lire et relire les œuvres complètes d'un écrivain ou d'une écrivaine, aller fouiller dans toutes les archives et tous les journaux disponibles. Il n'y a rien qui remplace la corporéité, l'être au monde d'une personne. Si le lecteur touche certainement à l'un des avatars de l'intimité de l'auteur, les mots ne peuvent être qu'une façade, plus ou moins creuse. Il n'y a pas d'échange réciproque, et certainement pas d'amitié qui se lie véritablement entre les deux, l'écrivaine ou l'écrivain restant un être de papier, dont on oublie presque parfois l'existence réelle. Comment alors aller au-delà de cette barrière insurmontable ? Comment pénétrer, ne serait-ce l'espace d'un instant, l'intimité de ceux et de celles qu'on ne connaît pas, et qui nous ont pourtant accompagnés toute notre vie ? On peut peut-être simplement commencer par écouter celles et ceux qui connurent vraiment l'auteur en question, qui peuvent témoigner de la façon dont sa vie fut vécue, parfois péniblement, parfois glorieusement. Dans ce numéro du jour au lendemain d'Alain Weinstein, diffusé pour la première fois le 15 juin 1988, Louis-René Desforêts et Jacques Pimpanaud nous offrent pour 45 minutes la possibilité d'entrevoir l'intimité de l'homme complexe que fut Georges Bataille. L'occasion notamment de revenir avec émotion sur sa mort, un 8 juillet 1962, à l'âge de 64 ans, et de brosser un portrait rempli d'amour et d'amitié pour celui qui fut bien moins monolithique que sa réputation sulfureuse laissa à penser.
Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Ce monde est donné à l'homme ainsi qu'une énigme à résoudre. Toute ma vie, ces moments étranges, déréglés, autant que mes lourdes méditations, s'est passé à résoudre l'énigme. Je vins effectivement à bout de problèmes dont la nouveauté et l'étendue m'exaltèrent. Entré dans des contrées insoupçonnées, je vis ce que jamais des yeux n'avaient vu. Rien de plus enivrant, le rire et la raison, l'horreur et la lumière, devenu pénétrable. Il n'était rien que je ne sache qui ne soit accessible à ma fièvre. Comme une magie insensée, la mort ouvrait sans cesse ou fermait les portes du possible. Le désespoir est simple. C'est l'absence d'espoir de tout l'heure. C'est l'état d'étendue déserte, et je puis l'imaginer, du soleil.
Évidemment, ce que j'ai à dire est tel que son expression a plus d'importance pour moi que le contenu. La philosophie, en général, est une question de contenu. Mais je fais, pour ma part, appel davantage à la sensibilité qu'à l'intelligence. Et dès ce moment, c'est l'expression, par son caractère sensible, qui compte le plus. D'ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune mesure s'exprimer sous une forme qui ne soit pas sensible, il n'en resterait absolument rien. C'est seulement à partir du moment où je donne une forme qui pourrait passer pour passionnée, qui peut aussi passer pour noire, mais je préfère dire que je suis un philosophe heureux parce que je ne crois pas être plus noir que Nietzsche. Il y a à partir d'un certain moment une nécessité pour la sensibilité de faire appel aux troubles. On ne peut pas émouvoir sans que le trouble soit en jeu. Mais malgré cela, n'est-ce pas, le trouble ne signifie pas, le malheur ne signifie pas le noir.
Du jour au lendemain, autour de Georges Bataille, à l'occasion de la publication chez Gallimard des deux derniers tomes de ses œuvres complètes qui recueillent ses articles de 1944 à 1962. Ce soir, Louis-René Desforêts et Jacques Pimpanaud évoqueront leurs souvenirs. Demain, nous entendrons les témoignages de Jean-Jacques Pauvert et de Jean Piel. Et jeudi, des lecteurs d'aujourd'hui, Dominique Lecoq, Michel Suria et Daniel Debels nous diront comment ils perçoivent cette œuvre enfin disponible dans sa totalité. C'est pendant la guerre que Louis-René Desforêts, l'auteur de trois maîtres livres, Les Mendiants, Le Bavard, La Chambre des Enfants, a rencontré Georges Bataille.
Je l'ai rencontré dans les circonstances suivantes, qui sont assez étranges. Mais auparavant, j'aimerais dire que L'expérience intérieure, qui était le premier livre de Bataille publié, qui était publié, je crois, en 1942, je l'avais lu aussitôt sans rien savoir de Bataille. C'est un livre qui m'avait fortement impressionné, que j'ai d'ailleurs relu et relu très souvent. Et j'ai entendu parler pour la première fois de Georges Bataille, dont je ne savais rien, par Raymond Queneau, dont je venais de faire la connaissance à Limoges. Et dans le train, nous sommes revenus en train ensemble, lui allait sur Paris, moi je m'arrêtais en route, et il m'a demandé si j'avais lu l'expérience intérieure, je lui en ai donc parlé, puisque je venais tout fraîchement de le lire, et il m'a parlé de Georges Bataille, avec lequel il a été vraiment très lié, surtout dans les années 39-40, enfin les années de peut-être juste avant-guerre, il me racontait que très souvent ils se promenaient ensemble la nuit dans les rues de Paris à parler de philosophie, entre autres de Hegel. Et bon, ça a été donc la première fois que j'ai entendu parler de Bataille. Et peu de temps après, je crois que c'était en 1900, ou tout début de 1944, je devais déjeuner avec Camus, dîner plutôt avec Camus, et j'avais été le prendre chez Gallimard, où il exerçait la profession de lecteur. Et Camus m'a demandé, est-ce que ça ne vous ennuie pas si Georges Bataille se joint à nous pour ce dîner. Et moi, j'ai dit au contraire, je serais très, très heureux de le connaître. Donc Georges Bataille est venu nous rejoindre et nous avons été dans un petit restaurant de la rue du Bac. Et à peine étions-nous assis qu'il y a eu une alerte. Si bien qu'on nous a mis à la porte. On a éteint les lumières, on nous a mis à la porte, et Bataille nous a proposé d'aller chez lui. Chez lui, c'est-à-dire que ce n'était pas exactement chez lui, c'était un appartement qui appartenait, qui était en somme l'atelier de Balthus, où il logeait à ce moment-là. Et nous y sommes allés, et là, Bataille a confectionné une espèce de fricot, je ne sais comment appeler ça, qui n'était pas très fameux, à vrai dire. Et nous avons mangé, dans une casserole, comme ça, sur une poêle, c'était des haricots, je crois, et nous avons mangé ça à la lueur des bougies, parce qu'il n'y avait plus de courant à cause de cette alerte. C'est une alerte qui a duré extrêmement longtemps. Et après quoi, alors d'abord il faut que je dise que cet endroit est un endroit extraordinaire, que j'ai bien revu depuis par la suite, parce que Klossowski aussi y a habité un certain temps. C'est une grande, très grande pièce comme ça, avec un grand lit à baldaquin. Enfin, quelque chose de tout à fait extravagant, en somme. Et après avoir mangé ce que nous avait donné à manger Bataille, après une conversation dont j'ai un peu oublié ce que nous avons dit à ce moment-là, il a voulu nous lire, ou plus exactement, nous jouer une scène d'une pièce qu'il avait tirée d'une nouvelle de Sade. C'était, je crois, Eugénie de Franval, si je ne me trompe. Et alors c'était extraordinaire parce que donc il jouait tour à tour les différents personnages. Il s'était mis sur il y avait une espèce d'estrade dans cette pièce. Il tenait une bougie à la main et il tenait à tour de rôle les répliques des différents personnages, et c'était tout à fait hallucinant. Et puis l'alerte a cessé et tout d'un coup la lumière est revenue. Enfin voilà le premier souvenir que j'ai de Georges Bataille.
Bataille.
Un portrait, c'est toujours très difficile. Ça reste toujours un peu... Enfin, pour moi, ça m'est très difficile. C'est un peu, ça resterait forcément un peu extérieur. C'était un homme dont il a déjà été dit qu'il était d'une extrême courtoisie. En effet, c'était un homme avec une expression de douceur dans le regard, un regard très bleu. Mais ce qu'il y avait d'étrange, c'est qu'il y avait comme une disparité, si vous voulez, entre le haut du visage et le bas du visage. Le bas du visage, c'est-à-dire la bouche, je dirais la bouche, la mâchoire, avait quelque chose d'un peu, je dirais, d'un peu animal, quelque chose d'un peu brutal comme ça, et avide de même. Et c'est un des aspects qui a été très bien souligné par Pierre Klossowski, lequel a fait un portrait de Georges Bataille, qui est légèrement caricatural, mais où on voit justement cette différence entre le haut et le bas du visage. Le haut d'une grande douceur, le bas d'une quelque chose de sauvage, comme une espèce de loup. Ce qui me frappait aussi, alors c'était les propos qu'il tenait, qui étaient des propos souvent d'une grande profondeur, et même, je dirais, pour moi, d'une certaine obscurité. Enfin, j'avais quelques mal comme ça à le suivre. Le tout dit toujours d'une voix égale, d'une grande douceur aussi, comme cela. Mais, je dirais, si vous voulez, que j'avais vraiment le sentiment, quand je me trouvais en face de lui et que je l'entendais parler, de me trouver vraiment en face, comme avec presque personne d'autre, je crois, avec très peu de personnes, en face vraiment de quelqu'un qui avait du génie. Parce que ce qu'il disait n'était en rien différent, au fond, de ce qu'on peut lire de lui, de ce qu'il a écrit. Thank you. vivais à cette époque-là à la campagne, j'ai cessé de le voir pendant plusieurs années. Et c'est seulement, je crois, vers le milieu des années 50, que je l'ai revu, entre autres chez des amis communs. Et puis nous sommes vus aussi, parfois, pas tellement souvent à ce moment-là. C'était un peu plus tard, au moment où j'ai publié mon troisième livre, qui était La Chambre des Enfants. Et il faisait partie à ce moment-là du jury du Prix des Critiques. Et c'est lui qui s'est beaucoup démené, qui a fait en sorte que j'obtienne ce prix. Et je me souviens encore le jour où ce prix a été décerné. Moi, j'étais au lit, paralysé par des rhumatismes aigus. Il m'a téléphoné, et puis il a commencé comme ça, par me dire, voilà, on s'est réunis, ça a été un peu laborieux, enfin, je sais pas, parlant des circonstances, mais sans me dire, toujours que, exprès d'ailleurs, un peu malicieusement, sans me dire que j'avais obtenu le prix, et puis pour finir, il me l'a dit. Avec cette espèce de gentillesse aussi, mais un peu de sadisme de sa part.
Alors justement, il y a une petite énigme. Avant La Chambre des Enfants, vous avez publié Le Bavard. Je crois que la première édition date de 1946. Et dans la postface qu'il a écrite pour ce livre, Blanchot dit que Bataille l'a lu peu de temps avant sa mort. Et il est mort en 1962, donc assez longtemps après la publication de ce livre.
Eh bien, je crois que très exactement, Georges Bataille a lu Le Bavard après avoir lu La Chambre des Enfants. Il n'avait jamais lu Le Bavard auparavant. Il avait lu mon premier livre dont il m'avait parlé, enfin à l'époque, presque à l'époque où le livre a été publié, mais il n'avait pas lu Le Bavard. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait cette lecture dont il m'a parlé par la suite assez souvent. C'était peut-être quand même... Non, c'était 2 ans avant sa mort, je pense, qu'il a dû le lire. Oui. Mais alors, à ce moment-là, justement, je l'ai vu beaucoup plus souvent. Il venait très souvent me voir dans mon bureau. J'avais un bureau aux éditions Gallimard. Il venait très souvent me voir. Il était déjà malade et très affecté par sa maladie, très inquiet aussi. Je dirais même parfois angoissé. Je l'ai vu parfois avoir des espèces d'explosions comme ça, de désespoir. Il avait à ce moment-là, pour soutenir sa tête, il avait une espèce de minerve. Vous savez ce que c'est qu'une minerve, c'est un espèce, je ne sais pas comment dire ça, comment définir ce que c'est. C'était une espèce de carcasse comme ça qu'il avait autour du cou, qui lui donnait un peu l'aspect d'un chevalier en armure, comme ça. Mais évidemment, il était malade, mais surtout inquiet, dans la crainte de perdre toutes ses facultés. Il semblait mimer quelqu'un qui n'a plus déjà tout à fait l'usage de la parole. Mais je crois que c'était plus une... Je ne dirais pas du tout une affectation, mais... Je sais pas, c'est comme s'il s'était mis déjà dans le rôle d'un infirme qui pourrait être avant peu.
Vous citiez tout à l'heure des amis communs, Plossovski, mais aussi Léris, dont nous n'avons pas parlé. Léris, lui, l'a connu, je crois, dans les années 20.
Oui, Léris l'a connu très tôt, en effet, dans les années 20, je crois. Enfin, Léris m'a très souvent parlé de Bataille, très stupéfait surtout par l'énormité de l'œuvre posthume. C'est une chose sur laquelle il revient souvent comme ça, me disant « Je n'aurais jamais soupçonné qu'il avait tant écrit et des choses si belles. » En effet, il y a eu dans ces œuvres complètes beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas.
En 55-56, Bataille fréquente d'autres amis communs, Mascolo, Anthelme, Marguerite Duras, et avec Blanchot, ils vont être, quelques années plus tard, à l'origine du manifeste des 121, pendant la guerre d'Algérie. Et Bataille n'a pas signé, lui, ce manifeste.
Non, en effet, Bataille a refusé absolument de signer. Mais ça, ce n'est pas tellement surprenant quand on connaît ses positions à l'époque. Il était dans une... Enfin, il ne croyait plus du tout à... Comment dirais-je? Il ne croyait plus à la Révolution, d'abord. Je ne veux pas dire par là qu'il était réactionnaire, mais il était d'un pessimiste, un pessimisme presque absolu, considérant donc que ce genre d'activité était tout à fait vaine, en quoi il n'avait pas non plus tout à fait tort, tout en n'ayant pas tout à fait raison non plus. Mais bon, enfin ça, en effet, il a refusé, malgré la pression très vive de Maurice Blanchot.
En 58, on retrouve ces noms au sommaire d'un numéro d'une nouvelle revue, La Ciguë, qui lui est entièrement consacré, donc de son vivant. Et vous-même, vous écrivez un texte sur Bataille à cette occasion. Or, c'est très rare les textes critiques que vous ayez publiés.
Oh, ce n'est pas du tout un texte critique, en fait. C'est plutôt, je ne sais pas, un témoignage des souvenirs ou quelque chose comme ça. La Ciguë était une petite revue tout à fait éphémère, je crois qu'elle n'a eu que 3 numéros. Ça avait été fait par des étudiants. Et dans l'un d'eux, il s'appelait Jacques Pimpanot, qui était un sinologue. Et par la suite, Jacques Pimpanot est devenu très lié avec Bataille. Il l'a beaucoup connu dans les dernières années de sa vie. Il a d'ailleurs été là, témoin de sa mort. Et cette revue avait donc, du vivant de Bataille, fait un petit hommage, comme ça, où en effet avaient participé diverses personnes, dont Léris, Malraux, André Masson, Marguerite Duras, qui avait écrit un très beau texte sur lui. Et d'autres.
Et vous, c'est un peu vos souvenirs de votre rencontre avec Bataille que vous racontiez dans ce texte.
Oui, je parle d'une part d'une lecture toute récente que j'avais faite du Bleu du Ciel, qui est un livre écrit par Bataille, je crois, dans les années 38-39, mais qui n'a été publié que bien des années plus tard. Alors je parle de ce livre, que je trouve un très beau livre, et aussi en effet de la première rencontre que j'ai faite de Georges Bataille.
Consacré un numéro de La Ciguë à Bataille, Jacques Pimpanot, on peut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de revues à l'époque qui faisaient des numéros spéciaux sur cet écrivain.
Non, c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Parce que à l'époque, si vous voulez, je travaillais à l'encyclopédie de la Pléiade, en faisant mes études de chinois. Et donc j'ai connu comme ça Robert Anthelme, René Desforêts, donc c'est par eux que j'ai entendu parler de Bataille. Et je me suis mis à le lire, je me suis aperçu que c'était quelqu'un de très important et que beaucoup de gens piquaient de ses idées, que personne ne parlait de lui. Je trouvais ça tellement injuste. Bon, c'était pas plus que ça. Et le hasard a fait que j'ai rencontré dans la rue un ancien camarade de classe qui me dit, avec des copains, on veut fonder une revue, on veut absolument que tu viennes, vous avez ennuyé plus tôt. Enfin, je dis oui, j'ai du mal à dire non d'habitude. Et je vais à cette réunion, et puis ils voulaient faire une revue, ça c'était là-dessus très ferme, mais par contre, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient mettre dedans. Alors je leur dis, ben moi j'ai une idée, on va faire un numéro spécial sur Bataille, parce qu'au moins, votre revue aura un sens, parce que ça fera reconnaître quelqu'un qui n'est pas reconnu. Et d'autre part, ça vous permettra d'avoir des noms de gens célèbres, parce qu'il y a quand même des gens célèbres qui l'estiment. Et donc j'ai fait ce numéro, je ne connaissais pas du tout Bataille à l'époque. Et puis je lui ai écrit pour lui demander la permission, est-ce qu'on pouvait reproduire aussi un texte de lui. Et très gentiment il m'a répondu et m'a dit qu'il donnerait même un texte inédit pour ça. Bon, tous les gens ont répondu d'ailleurs, je dois dire, très aimablement, j'étais très très surpris. Même Malraux, André Masson, bon, c'est plus normal, c'était un ami, mais enfin... beaucoup de gens, on peut... Moi j'ai plus de numéro, mais enfin si on le retrouve, on peut voir... Et à ce moment-là, puisque Georges donnait un inédit, donc il m'a demandé d'aller à Orléans pour le voir et puis voir avec lui comment le texte, préparer le texte pour l'impression. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, il m'attendait à la gare. Je n'attendais pas du tout d'ailleurs à le voir comme ça, parce que j'avais beaucoup de gens, quand ils le lisent, ont une impression de lui complètement fausse. C'était un homme qui était la politesse, mais incarnée. J'ai jamais vu quelqu'un dans ma vie d'aussi poli, d'aussi doux, d'une douceur absolument extraordinaire dans la façon de parler, ce qui n'empêchait pas d'avoir des idées très violentes, très arrêtées, mais en même temps avec énormément de tolérance. Et donc je vais dans son bureau, on travaille là-dessus. Il y a Diane qui ouvre la porte et qui nous dit d'un ton comme ça très brut, vous voulez du thé? Moi intimidé, je dis non merci. Et puis il y a Georges qui me pousse du coude et qui me dit, vous feriez mieux d'accepter. Donc j'ai dit ok, oui timidement si vous voulez. Et puis bon, on a fini le texte et j'ai dit je vais m'en aller. Alors il y a Georges qui dit, mais vous savez, Diane a préparé un dîner chinois spécialement pour vous parce qu'elle sait que vous apprenez le chinois. Alors du coup, je reste au dîner et là, j'ai découvert un autre personnage. Diane m'avait fortement intimidé. Au contraire, là, c'était fait avec tellement de gentillesse, ce dîner spécial, excellent. Puis on s'est mis à boire et puis du coup, j'ai raté le dernier train. Je disais de temps en temps, mon dîner, il n'y a pas un problème, dernier train. Il me disait, oh plus tard, vous en faites pas. Puis au bout d'un moment, Diane me dit, vous en faites pas du tout maintenant parce que le dernier train est parti depuis une heure. Et, mais il y a une chambre ici, vous en faites absolument pas, vous pouvez passer la nuit. Et donc c'est comme ça, après, bon, on s'est liés. Et il y a une chose qui, à l'époque, après on s'est revu plusieurs fois dans les bistrots quand il venait à Paris, et il y a une chose qui m'a absolument abasourdi, c'est que une fois, Georges me dit, vous savez, je vous ai beaucoup de reconnaissance d'avoir fait ce numéro de cette revue. Ben, je dis, pourquoi? C'est moi qui dois vous remercier, parce que c'est grâce à vous qu'il y a un numéro de revue qui se tient. Et il me dit non, parce que vous savez, là il y avait un manuscrit, j'avais un peu de mal là, chez les éditeurs. Et puis, comme j'ai pu dire, il y a une revue qui fait un numéro spécial. Alors du coup, ils ont dit, bon, ben, ça va peut-être se vendre. Parce que je trouve vraiment répugnant quand on pense qu'un homme comme ça, qui à son âge dit j'ai du mal à placer un manuscrit, alors que maintenant, ils vont, c'est tout juste, ils vont pas publier sa note de blanchisserie parce qu'il faut tout publier, etc. C'est chose, c'est un peu révoltant. Mais bon, ça c'est un détail. Et donc on s'est connus comme ça jusque en 58. Hein, de 58 à 60, je suis parti en Chine pour étudier à l'université de Pékin. On a pu garder que une correspondance comme ça. Et ensuite, quand je suis revenu, Georges était à Paris à l'époque, puisque il y avait des peintres, des sculpteurs, dont Gia Cometti, qui avait donné une œuvre magnifique. On donnait des œuvres pour qu'il puisse acheter un appartement et venir à Paris et pouvoir prendre un poste à la Nationale, puisqu'à Orléans, il était logé, et là, bon, avec son salaire, c'est difficile de se loger à Paris. Et donc, tous ses amis ont trouvé que c'était injuste, parce que, bon, eux faisaient fortune, parce qu'ils étaient peintres ou sculpteurs, et lui, un écrivain, ayant des difficultés. Donc, il y a eu cette vente, et donc, il a pu acheter un appartement à Paris. Et il y avait même deux petites pièces qui étaient son bureau, sa chambre, et à un moment, là, plus tard, d'ailleurs, Diane, très gentiment, m'a prêté, m'a dit, de l'autre côté du palier, il y a ça, vous savez, pour loger, pour l'acheter. C'était... Donc à ce moment-là, je l'ai beaucoup vu, parce que quand Diane partait en voyage, devait aller voir sa fille Julie, parce que Georges était souffrant à l'époque, il était très malade, et donc Diane me disait, si vous pouvez rester à la maison pour vous en occuper, j'ai un grand plaisir, au contraire c'est une occasion de bavarder, souvent j'invitais des amis, comme ça on passait la soirée ensemble.
Puis, vous êtes devenu un grand lecteur de Bataille.
Oui, enfin un grand lecteur, n'exagérons rien. Mais si vous voulez, je crois qu'il y a trois choses qui m'ont intéressé dans son œuvre. D'une part, le côté, je dirais, sociologique, avec son idée de diviser au fond en deux. Les sociétés pour les analyser, c'est-à-dire la part du travail, la part de la production pour se maintenir, si je puis dire, et d'autre part la part de la dépense. C'est une chose qui m'a beaucoup aidé par la suite pour étudier la Chine. Et je trouve encore aujourd'hui très dommage qu'on ne s'en inspire pas plus dans les études universitaires, où on coupe comme un saucisson en tranches. Alors il y a les spécialistes de littérature, il y a les spécialistes de l'art, il y a les spécialistes de la maintenant, je ne sais pas quoi, la sémiologie ou je ne sais pas trop quoi. Alors évidemment je comprends qu'on coupe comme ça, parce qu'à chaque fois ça fait une chaire, ça fait un boulot pour quelqu'un. Mais en même temps, alors si par exemple vous parlez de littérature et puis qu'un jour vous avez le malheur de parler de l'art, on vous dit « Ah mais pourquoi vous parlez de ça, c'est pas votre spécialité ?» Et ça, je crois que c'est très dangereux. Et moi, j'ai conservé cette idée-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la part de dépense dans une société. Comment elle dépense, c'est-à-dire comment elle prend ses caractéristiques culturelles. Et je me fiche de ses compartiments, littérature, beaux-arts, religion, etc. Et ça, je lui dois. Et ça, je crois que c'est une idée très, très, très bonne. D'autre part... seconde chose qui m'a beaucoup intéressé dans son œuvre, c'est toute la partie sur la somme athéologique. Je ne crois pas, si vous voulez, je crois que c'est Malraux qui a dit que le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas. Je ne crois pas que, et j'espère que non en tout cas, je ne crois pas qu'il sera religieux au sens des églises existantes. Mais je crois en effet que si on ne sauve pas la part que dans nos sociétés représentait les religions, et si on est entièrement une société de consommation, on va au plus grave danger. Je crois même à la mort carrément. Et donc ça, je crois que c'est une idée que beaucoup de gens feraient bien de reprendre et sur laquelle ils feraient bien de se pencher sérieusement. Et enfin, la troisième partie, c'est son œuvre romanesque. Un jour, d'ailleurs, j'ai demandé à Georges, je lui disais, parmi votre œuvre romanesque, quel est le livre que vous préférez? Et je lui ai demandé ce qu'il allait dire. Moi, j'avais mon idée. Mais, purement subjectif, évidemment. Et il m'a dit Madame Edwarda. Et je crois, en effet, c'est la... Si vous voulez, à quoi ça sert d'écrire des histoires pour raconter ce mode d'histoire, tout le monde a raconté plein d'histoires. Mais c'est là où on sent, par le ton même de l'écriture, tout le côté angoissé, tout le côté palpitant. C'est vraiment comme un cœur qui palpite. Et je crois que c'est rare qu'il y ait une œuvre littéraire qui soit comme un cœur qui palpite.
Vous ne parlez pas de sa poésie.
Sa poésie, je crois qu'il a écrit très peu de poèmes. C'est jamais une chose qui m'a beaucoup frappé dans son œuvre.
De quoi vous parliez-vous quand vous ne parliez pas de lui dans les moments de fatigue, par exemple dans un café comme celui dans lequel on se trouve en ce moment?
Oh, c'est... on bavardait, vous savez, le... Ah non, on ne parlait pas de lui. Je crois qu'une fois, comme ça, je lui ai demandé, j'ai pris mon courage à deux, mais pour ça, lui demander quelle était l'œuvre qu'il préférait de lui, parce que je trouve que c'était un peu indiscret de demander ça. Non, on bavardait de tout, on faisait toujours plein de projets comme ça. Je me souviens, il y avait un espèce de farfelu du parisianisme complètement éleperlu qui avait rencontré Georges Et j'avais parlé, on parlait littérature chinoise par exemple. Alors il disait le Tin Ping Mei. Oh, il dit ce serait merveilleux si on faisait un film du Tin Ping Mei. On se mettrait à gagner beaucoup d'argent. Alors je disais oui, je crois que c'est un peu difficile de trouver les fonds pour faire ça et tourner. Il m'a dit non, j'ai rencontré quelqu'un qui est très riche et qui va mettre de l'argent. C'est une espèce de gentil dingue. Donc je dis c'est pas sérieux, moi j'y crois pas du tout. Mais si, si, vous savez, il avait ce côté comme ça très rêveur. Comme ça, on partait sur plein de choses. On voulait. Puis à un moment, on avait aussi collaboré pour une revue qui malheureusement n'a pas vu le jour. Parce que, vous savez, c'est ce que Proust dit quand les peintres se rencontrent entre eux. Ils parlent galerie. Il n'y a que les banquiers qui peuvent se permettre de parler art, leur moment perdu. Et donc, on était avec Jean. Comment. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Il voulait BD aussi. Il disait, ah, tenez, il connaissait Loduca, parce que, alors, il m'a dit, tenez, je vais essayer chez Loduca que vous publiez quelque chose, comme ça, ça vous aidera un peu. Et donc, il avait cette idée de faire une revue sur l'érotisme. Et c'était Girodias, on s'était rencontrés. Alors, je devais m'occuper de la partie chinoise. Je me souviens, il y avait Valberg qui devait parler plutôt des beaux-arts. Il y avait aussi bien des gens de la nation. Ça, c'est une chose qui est merveilleuse chez lui, qui était depuis document d'ailleurs, qui s'est retrouvé dans Critique et qu'il a toujours gardé. C'était de mettre ensemble les plus grands érudits, des gens que d'habitude on imagine très bien dans la Bibliothèque nationale où il travaillait. Et en même temps, les gens complètement farfelus, artistes, et il arrivait à les mettre ensemble. Ça, c'était unique, et c'est resté unique. J'ai jamais vu après de revues qui arrivent comme ça à mêler ces deux sortes de gens. Parce que lui avait ces deux choses en lui. Il était les deux. Diane s'absentait de Paris. Souvent, elle me demandait, comme Georges Desmalles, si je pouvais rester à la maison pour si jamais il se passait quelque chose pour être là. Et donc, Diane s'était absentée pour aller voir de la famille en Angleterre, parce que Georges était très malade, mais en même temps, bon, il était malade depuis des années. Et donc, j'étais avec lui. Je me souviens, c'était un samedi soir. Me suis dit, bon, pour distraire un peu, j'avais invité des amis à dîner, souvent quand on était ensemble. J'avais invité une amie d'enfance, son mari, puis un couple d'Américains qui le connaissaient, qui était de passage, qui voulaient le voir, s'amuser de les rencontrer. Et donc, on a dîné ensemble. On a même bien rigolé ensemble, toutes sortes d'histoires, n'importe quoi. On parlait pas de littérature, des beaux-arts. Et puis on a bavardé après le dîner, je ne sais pas, vers 11h, enfin un peu plus sans doute. Georges dit que maintenant qu'il est un peu fatigué, qu'il va se reposer, mais il semble tout à fait en bonne forme. Et il part se coucher, et puis je vais voir avant de me coucher, il dormait, bon, ça allait. Et le lendemain matin... je vais le voir et il dormait toujours mais il respirait d'une façon très bizarre. Alors j'ai dit c'est quand même un peu inquiétant et quand son médecin Théodore Frankel s'absentait, il laissait toujours son numéro de téléphone. Donc je téléphone à Frankel et je lui dis « Georges n'a pas l'air d'aller bien, j'aimerais bien que vous veniez ». et me dire « Ben, vous êtes toujours en train de vous affoler, arrêtez, ben, c'est pas un jour comme ça, on est un peu bourru, mais cœur sur la main. » Et le... bon, je me dis, en effet, peut-être je m'affole trop, il se repose. Mais à un moment, quand même, j'essaye de le réveiller, parce que quand même, ça avançait dans la matinée, ça me paraissait bizarre, et j'arrivais pas à le réveiller. Alors là, du coup, je rappelle Frankel, qui me dit, écoutez, ne vous affolez pas, etc. Et puis là, je me suis vraiment inquiété, et j'ai appelé cet ami, d'ailleurs, qui était avec nous la veille au soir à dîner, qui est un médecin, et je lui demande de passer. Et elle vient, et elle voit Georges, et puis elle me dit, il faut appeler Frankel de toute urgence. Donc je rappelle Frankel, et je lui dis que cet ami, il la connaissait, dit qu'il faut que vous arriviez de toute urgence. Il dit, bon, j'arrive. Et quand Frankel est arrivé, bon, toujours avec cet air, essayer de rassurer les gens, il me dit, bon, alors allons voir le malade. Et il arrive dans la chambre, et puis il ressort avec tout à fait un autre visage, et il me dit, Georges va très mal, il faut appeler, rappeler tout de suite Diane d'Angleterre, il faut appeler sa fille Laurence, qui était médecin aussi. Et donc Laurence et son gendre sont arrivés, ils l'ont transporté à l'hôpital Laennec. Enfin, en fait, dans la nuit, en dormant, il est rentré dans le coma, il ne s'en est jamais réveillé. Ils l'ont transporté à Laennec, je crois qu'ils ont essayé de le réanimer, mais ils ne sont pas arrivés, il est mort dans la nuit.
Voilà. Il parlait souvent de la mort?
Non, pas souvent, enfin avec moi en tout cas pas souvent, et toujours avec un mot de plaisanterie, comme la chose la plus drôle d'une certaine façon. D'ailleurs... je crois que c'est pas mal de prendre les choses comme ça. Et donc, ah oui, et aussi, donc il a fallu rappeler son autre fille. Parce que Georges, vous savez, a eu deux filles. Une fille d'un premier mariage, Laurence, et une fille de Diane, Julie. Et je dois dire qu'il parlait toujours avec une très, très grande affection et faisant beaucoup de soucis de ses deux filles. Le hasard a voulu que j'ai revu Laurence des années plus tard, quelques d'ailleurs, même pas, je crois, un an avant sa mort, à la mort de Laurence, qui est morte récemment, au centre Pompidou, avec, c'était pour un film, ou non pas un film, c'était pour une lecture d'un texte de Pierre Klossowski, qui était un grand ami de Georges. Et Laurence disait à ma femme, que, il y avait là des forêts, elle lui disait, mon père m'a jamais donné qu'un seul cadeau dans sa vie, c'est d'ailleurs un livre, c'est le bavard de René des forêts. Et ça je veux bien croire qu'en effet Georges n'était pas du genre à faire des cadeaux ou à penser à des choses comme ça, mais en même temps ça ne veut pas dire du tout, je crois que vous savez les gens font des cadeaux, hein, moi je m'en méfie, il ne faut pas du tout... comme certaines gens croient, comme ça qu'il était indifférent à, aux relations, disons, même familiales. Et c'était quelqu'un qui se faisait énormément... Souvent, il m'a parlé de ses deux filles. Et on voit que c'était quelque chose qui le préoccupait énormément. Il en parlait toujours avec beaucoup de délicatesse. Ça n'aurait jamais été... Bon, ça devait pas être facile d'être la... pour Julie, ça doit pas être facile d'être la fille de Georges Bataille. Parce que quand on la voit, on dit « Ah, vous êtes la fille de Georges Bataille. » C'est dur. Et lui, au contraire, devait se rendre compte de ça parce que il était en même temps d'une très grande discrétion par rapport à ses enfants. On le sentait, mais ça ne veut pas dire du tout que c'était pas un des grands centres de ses préoccupations.
Georges Bataille, un bon père de famille?
Non, pas bon père de famille dans ce sens-là. Parce que ça, c'est affreux, le bon père de famille. Là, c'est vraiment à vomir. Mais non, il n'était pas du tout un bon père de famille. Il était... un homme très bon, ça c'est autre chose.
Louis-René des Forêts.
je crois vraiment que la lecture de l'expérience intérieure que j'ai donc fait dans les années 42 a été pour moi absolument capitale. Et cette influence, je crois, doit malgré tout se sentir dans ce que j'ai pu faire par la suite. C'est ce que disait par exemple Jean Paulhan. Jean Paulhan disait que le bavard, on sentait très bien l'influence de Bataille. Je crois qu'il n'avait pas tort. Mais je me souviens d'en avoir parlé avec Bataille, que ça fait rire. Disons, moi, je ne vois pas du tout, je ne vois pas, ça c'est des idées à la Paulhan, mais ça ne me paraît pas juste. Mais je crois que c'était quand même assez juste. Mais moi-même, je peux difficilement dire en quoi l'influence s'est faite. C'est plutôt, c'est pas tellement peut-être la pensée de Bataille que le mouvement de sa pensée qui m'a requis à cette époque-là.
Vous vous souvenez de votre dernière rencontre ?
Oui, la dernière rencontre que j'ai faite avec lui, c'était, il était venu dîner avec sa femme, Diane, chez moi et avec quelques amis. Mais alors, j'avais été frappé par son air un peu accablé. Enfin, il était très silencieux, comme ça, très, très sombre et comme un peu, enfin, distrait. Et ce dont je me souviens, c'est que le lendemain, il m'a téléphoné pour s'excuser de n'avoir pas été à la hauteur de la conversation. C'est vrai qu'il était extrêmement silencieux. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Il est mort, je crois, 15 jours ou 3 semaines, tout au plus, après.
Louis-René Desforêts et Jacques Pimpano parlaient de Georges Bataille, dont les deux derniers tomes des œuvres complètes viennent de paraître chez Gallimard. Du jour au lendemain, Christian Fontaine, Bernard Treton, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.
C'était un numéro du jour au lendemain d'Alain Weinstein, diffusé pour la première fois le 15 juin 1988, avec Louis-René Desforêts et Jacques Pimpano.